Hello there.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Vers l'infini et au-delà.
It's gonna be legendary.
Good to see you too, Pop.
Trois fois mille. Je compte même pas jusque là.
This is your king, George III.
C'était fun.
Telle est la voix.
Ferme les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne.
Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
Bienvenue à tous et toutes sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Et aujourd'hui, deux chroniqueurs qui étaient déjà avec nous une première fois, mais qu'on avait osé oublier de présenter. Donc c'est à votre tour, vous avez la parole, vous pouvez dire ce que vous voulez sur vous. Bonjour Céline et Cédric.
Bonjour.
Ben bonjour.
Faites pas les timides, hein. Oh là là, c'était quoi ce petit bonjour. Hein, on voit vraiment que t'es heureux d'être là, toi. Vraiment.
Mais si.
On va changer de Cédric.
Bon alors Cédric, qui es-tu?
Je m'appelle donc Cédric. On m'a déjà entendu sur deux épisodes avant. J'habite au bord de la Méditerranée, un pays catalan. J'étais un auditeur, et je suis encore un auditeur fidèle d'Il était un
plus. On l'espère.
Voilà.
La pression.
Voilà, et après, quoi dire, que j'aime bien que je suis un cinéphile, que j'aime bien les séries, les films, j'ai bien discuté, on en a beaucoup discuté sur Discord. Et sinon, si vous avez écouté l'excellent épisode 19 présenté par Clémence sur l'art, le deuxième catalan le plus connu après Dali, c'est moi.
Voilà. C'est beau ça. Ah, ça, c'est bien trouvé ça.
Voilà.
C'est bien trouvé.
Et après, je sais pas. Bon, voilà, c'est tout, hein, y a pas grand chose à dire.
Mais c'est déjà très bien, merci Cédric. Et toi Céline, dis-nous tout.
Eh bien, londonienne, hein, très 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 fière d'ailleurs, londonienne depuis 18 ans, donc pratiquement british. J'ai à peu près l'âge de Cédric, donc je fais partie des vieux du podcast. Excuse-moi Cédric, de te balancer en même temps. Et puis voilà, je travaille pour une très bonne boîte qui me relie à la France tout le temps. Donc ça c'est très pratique, je suis toujours à côté et du coup j'ai toujours l'occasion d'aller à Disneyland Paris très très souvent, même si j'habite sur une île pas trop loin. C'est à peu près tout, hein, je pense.
Et est-ce que tu aimes le cinéma? Évidemment oui, sinon tu ne serais pas ici, mais enfin bon, on va enfoncer quand même le clou, hein, et enfoncer les portes ouvertes parce que sur Il était un plus, on aime ça.
Bien sûr.
Alors, est-ce que tu aimes le cinéma, Céline?
Alors, j'aime le cinéma, par contre j'ai un défaut par rapport à vous tous, c'est que je ne regarde pas le cinéma français vu que je suis... en fait, j'en ai pas ici, ça ne passe pas la manche. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude d'aller voir des films français, mais que des fois j'en découvre quand je vais voir la famille, etc. Mais voilà, je suis très... je vais pas prendre ça pour un... Certaines personnes vont peut-être dire que c'est mal, mais je suis très blockbusters américain en général.
Moi aussi, tu n'as pas à en avoir honte. Voilà. Pourtant, moi, je vis dans un pays francophone et je suis comme toi, j'en regarde presque rien de français. Donc voilà. Je suis plus cinéma américain et anglais. Comme
toi. Voilà, et j'aime bien les petits films anglais en fait. C'est ça, les gros blockbusters américains et les petits films anglais, c'est ma cam.
Si on le fait à la Tarantino, on crie vive le cinéma. J'ai pas la ref.
J'ai pas la ref.
Bon. Tarantino, un jour, il a crié dans un.
Festival de Cannes. Ah, ça y est, voilà, je me souviens. D'ailleurs, rien à voir, mais pour la petite anecdote, on a un homme politicien belge qui s'appelle Richard Miller, qui a écrit un livre sur le cinéma et Tarantino, et qui lui a remis au festival de Cannes, et il lui a remis en main propre à Tarantino, parce qu'il est fan de Tarantino et de son travail.
C'est cool.
Voilà. Moi, il y a une mère d'élève qui m'a offert un journal du délégué régional, celui qui organise le Festival de Cannes, qui a écrit un journal sur un an, de la fin du festival à la fin de celui d'après, et du coup, qui raconte toute la préparation, et c'est hyper intéressant, je suis en train de lire ça.
Ouais. C'est sympa comme cadeau.
Écoute...
Moi, je me fais cracher dessus, toi, tu reçois des livres, c'est toujours sympa, voilà. Chacun ses cadeaux, hein, écoute.
Ok.
J'avais moi aussi offert un livre une fois à un professeur de mon fils.
Mais ça, on aime ça, des parents. Mais grave. Des parents qui sont investis, ça c'est bien.
Il y en a pas tant que ça. Hein.
Non.
Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer cet épisode après cette longue introduction, mais fort sympathique. Je parle comme les Belges, j'ai employé le mot fort.
Elle est des nôtres.
Et ça commence.
Putain, je suis en forme, moi, ce soir. Wouh.
Et donc, vous l'aurez compris au titre, il s'agit du deuxième, si je ne me trompe pas, zapping.
Deuxième.
C'est ça, deuxième zapping. Donc avec... alors attendez, on est 5, 2 fois 5, 10, donc avec 10 contenus.
Bravo, madame la prof de maths, bravo.
Et ouais. Et sans sortir la calculatrice. Et donc, 10 contenus exclusifs, mais un petit 11e, puisqu'on va commencer par voilà, un film qui est sorti il y a un petit moment maintenant sur la plateforme, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. On l'a quasiment tous et toutes vu, n'est-ce pas Clem ? Et il s'agit de Peter Pan et Wendy. Wouh ! Et donc, Peter Pan et Wendy, alors moi j'en ai beaucoup parlé dans un épisode de Pop T, donc je vais aller assez vite et je vais vous laisser la parole. Moi j'ai trouvé ça très sympa, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de magie, entre guillemets, que le dessin animé, parce qu'on voit moins les sirènes, on voit moins le pays imaginaire, etc. Il y a moins de paillettes, et c'est vrai que moi je suis une fille à paillettes, donc ça pourrait me poser problème. Mais j'ai trouvé qu'il avait tellement de belles qualités à côté que j'ai passé un très bon moment devant. Moi, la relation Peter Pan-Crochet, j'ai trouvé ça sympa, ce petit plus. J'ai beaucoup aimé le rôle des femmes dans celui-là. Même si c'est pas approfondi, ils ont enlevé tout ce que je détestais, c'est-à-dire la jalousie excessive, les rivalités féminines, les rôles potiches, et puis hors représentation des femmes, représentation des Indiens aussi. Voilà, il y a plein de choses qui me déplaisaient très 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 fortement dans le dessin animé et qui faisaient que j'avais beaucoup de mal à le regarder avec mon œil actuel, alors que c'était un dessin animé que j'aimais beaucoup petite. Et du coup, pour toutes ces raisons, ce que j'expliquais, c'est que j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé, et c'est un live action qui, certes, est en dessous visuellement du dessin animé et qui n'est pas une qualité cinéma. Je suis très contente qu'il soit resté sur la plateforme, mais c'est le genre de live action que je pourrais montrer à mes enfants quand ils sont jeunes, qui veulent connaître Peter Pan, mais que j'ai pas envie de leur montrer toutes ces représentations un peu trop négatives pour moi du dessin animé. En tout cas, un jeune enfant à qui c'est compliqué d'expliquer certaines choses encore. Voilà.
Bah moi, je me suis ennuyée. Vraiment. Je ne m'attendais à rien et j'ai quand même été déçue. Non, moi c'est la catégorie, enfin je le range avec les live action oubliables que je regarderai plus parce que j'ai trouvé ça fade en termes de couleurs, enfin visuellement j'ai trouvé ça très fade. Les acteurs, je suis pas convaincue. Je sais plus qui nous avait montré que la petite qui joue Wendy, c'est la fille de Mila Jovovich, c'est possible?
Ouais, c'est ça. Mais cette actrice, moi j'ai eu beaucoup de mal, elle avait tout le temps la bouche ouverte, je sais pas, ça m'a perturbée.
Ouais, bah pistonnée,
c'est moi qui vous avais dit que c'était la fille de Mila Jovovich.
Merci.
Pas rien.
Les potins, toujours.
Voilà. Bah, évidemment.
Clem les bons potins.
Faut vraiment que je me crée un générique. Hein. Clem les bons potins, c'est sympa, ça.
Ouais.
Il va falloir que je potasse là-dessus.
Bah ouais, j'ai trouvé... Enfin, bon, pistonné, du coup, le petit Peter Pan, il était vraiment tête à claque, pas du tout attachant. Ah non, moi, j'ai trouvé tête à claque
aussi. Ah ouais, moi, j'ai trouvé plus attachant que dans le dessin animé.
Jude Law, Capitaine Crochet, non. Franchement, non, pas plus que ça. Enfin, c'est vraiment un mais général, en fait. Il n'y a pas grand-chose que j'ai aimé là-dedans. Je trouvais ça juste chouette qu'ils aient changé les garçons perdus, qui est, bah, déjà, il n'y a plus que des garçons. C'est un ensemble d'enfants assez, assez divers et assez... Enfin, je trouve pas le mot, mais divers et en même temps, ça fonctionne bien ensemble. Ça, je trouvais ça chouette. Et alors oui, comme tu dis, le côté, on enlève un peu les rivalités féminines inutiles. Mais franchement, si c'était... Enfin, ça valait pas le coup de faire un live action et... Des Peter Pan et Wendy, il y en a déjà 150. Celui-ci n'apporte rien, je trouve. Et je comprends qu'il soit sorti direct sur Disney+, parce que j'ai l'impression que du coup, il n'y croyait qu'à moitié. Quoi.
Oui, ça se sent. Hein.
En fait, je vais rebondir sur ce qu'Emily dit, parce que, en fait, justement, moi, je suis une grande fan du Peter Pan de 2003. Oui, c'est vieux, mais moi, c'était pour moi, ce Peter Pan-là était beaucoup plus crédible, et le Capitaine Crochet, évidemment, parce que c'était Jason Isaacs, qui est Lucius Malfoy pour ceux qui regardent Harry Potter. Pour moi il était beaucoup plus crédible. Donc j'ai pas grand chose à rajouter, hein. C'est pareil, ce Peter Pan là m'a pas inspiré. La Wendy, bon bah je pense qu'on est tous d'accord, mais Et pareil que Charline, évidemment, Émilie. J'ai bien aimé le fait que Clochette ne voulait pas forcément détruire Wendy ou Lily la tigresse. Enfin voilà, que justement, ça m'a plu, ce côté-là. Mais à part ça, ouais, enfin, c'est bien pour un dimanche après-midi quand il pleut. Mais c'est à peu près tout. Je pense pas que je le re-regarderai, en fait.
Au niveau casting, je l'avais pas dit, mais la fée Clochette, elle est très chouette. Yara Shahidi, je trouve que... En fait, de nouveau, c'est un peu comme l'actrice qu'ils ont pris pour jouer Ariel, Hailey Bailey, maintenant le nom me revient, mais d'ailleurs, elles viennent un peu de la même série. Hein. Y a toute une polémique parce que, ah, ils ont mis une fée Clochette noire, hein, ils ont mis une petite sirène noire. Et en fait, je trouve qu'elle colle tellement au personnage, alors certes pas physiquement, du coup, mais dans la personnalité, dans la façon de jouer, que finalement, pour moi, c'est un très bon choix. Contrairement à une Wendy, par exemple, où, enfin, c'est pas une question de couleur, parce que, par exemple, le petit Peter Pan, ils ont pris un Peter Pan, je sais pas bien de quelle origine il est, mais pas blanc. Et... bon, il est pas très bon non plus, quoi.
Comment tu viens de le terminer, le pauvre?
Ouais, moi, je l'ai trouvé trop chou.
Ah non, je suis désolée, ce Peter Pan, il m'a énervée. Il est mignon, tant qu'il ouvre pas la bouche, mais il est très tête à claque, quoi.
Ouais, Peter Pan, il est un peu tête à claque, hein.
Mais Peter Pan, il doit être tête à claque, mais un peu charmeur aussi. Ouais, là, j'ai vrai. Juste trouvé tête à claque.
Il doit être espiègle, il doit être espiègle.
C'est le mot.
Ouais, mais tu vois, dans les autres, parce que moi, je suis comme Céline, le 2003, je l'adore énormément. J'ai juste, en fait, en regardant celui-là, j'ai vraiment essayé de mettre de côté les autres, en me disant que ce soit Hook, le Peter Pan de 2003 et tout, en me disant, voilà, je le prends comme un truc vraiment à part, différent, et j'essaye de pas comparer. Mais c'est sûr que le 2003, il est largement au-dessus, il y a pas photo. Mais je le trouve aussi tête à claque, hein. Le Peter
oui,
Pan.
Dans ce... Oui.
Oui, mais tu t'es quand même un peu attaché au personnage. Là, le Peter Pan, quand il se blesse ou qu'il lui arrive un malheur, je m'en fous, quoi, vraiment.
Robin Williams n'est pas tête à claque.
Ah si, si. Ah, ah si, un petit peu.
Ah si, grave.
Robin Williams.
Ah si, un petit peu, au tout début ouais. Avant qu'il revienne à Neverland.
Non, là, c'est un connard de Wall Street.
Ouais,
Oui, mais c'est son caractère.
Même, vous pourrez même pas dire que c'est un connard de Wall Street. C'est gentil.
Bon, un petit peu quand même au début, si. Il oublie les trucs de ses enfants et tout. Enfin, il a perdu son âme d'enfant, en fait. Il a perdu ce qui faisait de lui Peter Pan, ce côté enfant. Il l'a perdu, mais il le retrouve pendant le film. Donc au début aussi, c'est quand même un enfoiré au début, faut le dire.
Ouais, mais il joue bien.
Il envoie son collaborateur filmer son gamin et tout au match. Non, pas possible. Mais pas tête à claque. Je dirais pas tête à claque. Il est espiègle. Mais il le fait bien à la Robin Williams, tu vois, donc c'est pas énervant.
Ouais, ça, c'est différent parce qu'il est adulte, tu vois.
Ouais, peut-être.
Ouais, on peut pas trop le comparer, ces deux choses.
C'est plus difficile à comparer.
Ouais.
Mais si tu compares avec celui du dessin animé, je trouve hyper tête à claque, celui du dessin animé. C'est pareil, quand il se retrouve tout seul et tout, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'étais là-bas, bien fait pour toi.
Ah ouais.
Tu vois, enfin... Et je le trouvais pas du tout attachant. Moi, je le regardais pour Wendy.
Ah ouais, non. Moi, je regardais pour Peter.
Moi, je regardais pour Clochette.
Ah, j'aimais bien Clochette aussi.
Peter Pan, il me faisait rêver quand même.
Mais je regardais aussi pour la relation Clochette-Peter Pan, tu vois. Enfin, c'est un tout, quoi. Mm.
Ouais.
Sinon, moi, si je dois donner mon avis sur le film, je vais pas rajouter grand-chose. Moi, tout ce qu'a dit Emily, je suis d'accord, moi, il m'a ennuyé. Je suis allé jusqu'au bout parce que, bon, je l'ai regardé, mais je trouve que tout était mal amené. Pareil, moi, le Peter Pan, une tête à claque, je l'ai pas aimé, enfin, j'arrivais pas. Bon, après, moi, j'ai pas vu le 2003, donc, je peux même pas comparer avec le 2003. Donc, après, Jude Law, bon, pareil, j'ai du mal à accrocher. Rien de nouveau, Dustin Hoffman.
Non, ça, c'est vrai, ça, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Bah, après, je suis même pas sûr que c'est vraiment l'actrice Wendy qui est nulle. J'avais plus l'impression que c'était ce qu'on lui demandait de faire, en fait. Enfin, est-ce que c'était vraiment Wendy ou est-ce que c'est, la direction des acteurs, enfin, je sais pas.
Bah, le fait qu'elle ait tout le temps la bouche ouverte et la même expression de visage, c'est elle, quoi. C'est pas...
Ouais, le jeu d'acteur était assez limité.
Mais ça me permet de faire une belle transition, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour sur Peter Pan et Wendy, sur le premier contenu, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec les expressions du visage de l'actrice, et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal sur ce film, dont Émilie va vous parler.
J'étais en train de me demander quelle transition t'allais trouver, je suis très étonnée.
J'étais là, mais ça n'a rien à voir.
Bon, il s'agit donc du film Un bal pour Harvard. Bon, du coup, je vais parler du film Un bal pour Harvard ou The Prom Pact, titre original qui sonne beaucoup mieux d'ailleurs, qui marche beaucoup mieux avec le scénario du film, mais soit. Film original sorti directement sur Disney+, cette année, il y a quelques mois. Alors, l'actrice dont parle Charline, c'est Peyton Elizabeth Lee, qui est la gamine que vous avez vue dans... Alors, que vous avez vue, c'est une série Disney Channel un peu plus récente, donc peut-être que tout le monde l'a pas vue, qui s'appelle Andy Mack. Très mignonne d'ailleurs, je la conseille, je l'ai regardée il y a quelques années, elle est très chouette et ça aborde plein de sujets intéressants, c'est notamment une gamine... Oh, est-ce que je peux spoiler ? Je vais spoiler, ça a plusieurs années. La gamine découvre notamment à un moment que, en fait, sa sœur, c'est sa mère, et que sa sœur l'a eu, enfin, que sa mère, du coup, l'a eu très jeune, et donc ils ont fait semblant que c'était sa grande sœur, etc. Ça parle d'homosexualité, ça parle de plein de trucs assez profonds, quoi, pour une série Disney Channel pour gamins. Donc regardez Andy Mack aussi. Et on retrouve aussi Milo Mannheim, qui est le gars de Zombie. Le zombie principal. Voilà, pour ceux qui ont regardé Zombie. C'est des refs, c'est des stars de Disney Channel, mais c'est des stars de Disney Channel de maintenant, donc que peut-être notre public connaît moins du coup. Moi, étant restée une gosse qui regarde du Disney Channel, je connais.
C'est vrai que pour Cédric et moi, ça parle un peu moins, je pense. Mais
Ouais, ouais.
Je peux comprendre.
Même pour moi. Hein,
même pour moi aussi.
Je n'ai jamais regardé Disney Channel, jamais.
Pareil.
Moi, c'est pareil.
Oui, ben ça va.
Émilie, Émilie est toute seule, quoi. C'est pas grave.
Voilà. Mais il en faut pour tous les âges et toutes les générations dans ce podcast.
Tout à fait, c'est ça qui est intéressant.
Mais donc moi et mes 4 ans d'âge mental, on a regardé ce film parce que mais ça faisait très enfin les affiches, la promo qu'ils en ont faite, ça faisait très Disney Channel Original Movie hein, c'est dans la lignée des Camp Rock, des High School Musical, les machins, enfin vous voyez un peu l'ambiance. Donc moi ça m'a parlé totalement, c'est ma cam. Et donc de quoi ça parle ? Donc nos deux acteurs principaux là dont on a parlé jouent le rôle de Mandy et Ben qui sont deux meilleurs amis qui se retrouvent en dernière année de lycée, qui sont un petit peu marginaux dans leur bulle, ils font leur soirée cinéma dans leur coin, ils sont pas très sortis, etc. Et ben voilà, comme la fin de l'année approche et que la prom, donc le bal de fin d'année approche, ben c'est la grande mode, il y a tout le monde qui font... Alors c'est un truc très américain pour le coup, ils appellent ça les promposals. C'est en gros aller demander à une meuf ou un mec « Veux-tu aller avec moi au bal de promo ?» de manière assez extravagante pour certains. Et donc bref, ils voient ça qui se multiplie, ils voient toute l'ambiance et eux se sentent un petit peu en dehors de ça. Et finalement, ils se demandent, en arrivant à la fin de leur dernière année de lycée, bon, est-ce qu'on n'est pas passé à côté ? Est-ce qu'on ne devrait pas quand même essayer de se fondre un peu dans la masse ? Il y a ça, et puis il y a le fait que Mandy, elle est complètement concentrée sur son rêve qui est d'entrer à Harvard. Et pour ça, elle essaye, encore un truc extrêmement américain, d'obtenir une lettre de recommandation de quelqu'un qui pèse dans le game pour pouvoir entrer à Harvard. Et donc, elle commence à approcher la star du basket du lycée parce que son père est un ancien d'Harvard. Et en fait, elle se dit que si elle copine avec lui, elle va pouvoir choper une lettre de référence de la part de son père. Je vous rassure, j'ai pas spoilé le film, il y a encore plein de rebondissements derrière. Mais comme ça, vous avez un peu le cadre. Et j'ai trouvé ça pas mal. C'est vraiment du Disney Channel Original Movie, rien qu'avec le pitch, ça pue le film de lycée américain, ça déborde de clichés. Mais en même temps, j'ai bien aimé parce que ça avait un côté rafraîchissant. C'est-à-dire, il y a une diversité dans le casting, dans les sujets abordés qui est chouette. Il y a beaucoup d'humour qui fait pas cringe forcé comme les films lycée américains peuvent l'être habituellement, qui passe bien, je trouve, dans l'époque d'aujourd'hui. Et puis il y a des petites surprises quand même, quoi. Typiquement, moi, en voyant l'affiche du début, c'est ah, c'est un mec et une fille, son meilleur pote et tout. J'ai dit ok, c'est bon, j'ai compris, ils vont finir ensemble à la fin. Spoiler alerte, non. mais je trouve, allez, c'est bête, hein, mais je trouve c'est prendre les clichés des films lycée américain, balle de promo, tout ce que tu veux, mais en apportant quand même quelque chose d'un peu frais et de nouveau. Donc, c'est pas le film de l'année, c'est pas du grand cinéma. Mais c'est réconfortant.
Ça se laisse regarder.
Il y a des petites histoires d'amour, il y a des pom-pom girls, il y a du bal de promo, je suis là pour ça.
Moi, je t'avoue, je l'ai regardé parce que histoire d'amour, voilà. Du coup, forcément. je me suis un peu ennuyée.
Oh.
Je pense que je suis peut-être trop vieille.
Ben, moi, ça me tente bien comme tu le pitches. Ça, c'est un peu genre 17 ans encore.
Ah, j'adore 17 ans encore.
Ouais.
Je l'ai pas vu. Donc je ne sais pas te dire.
Oh, mais t'es vraiment trop jeune, Émilie. Mais c'est pas possible.
Mais attends, il est pas si vieux que ça, 17 ans encore. C'est avec Zac Efron.
Ouais, mais elle avait peut-être 9 ans quand c'est sorti, Émilie.
Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu en entier.
C'est avec Zac Efron et Matthew Perry. C'est, en fait, Zac Efron, c'est la version jeune de Matthew Perry. Et alors, il retourne dans le passé, et bon, bref.
Moi, je dirais, je vais peut-être être méchante, hein, mais une version un peu cheap de High School Musical sans les chansons.
Alors non, ça va pas me plaire.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ça se veut pas un High School Musical dans le sens où c'est pas une comédie musicale.
Non, mais je dis sans les chansons, mais en fait c'est au lycée, il y a des histoires. Pour moi, enfin, moi j'ai trouvé hein, que ça restait très ado en fait. Et pourtant j'aime bien les trucs un peu ado. Oui. Et d'ailleurs je vais parler juste après d'une série avec la même actrice et qui est ciblée très ado. Mais j'ai trouvé qu'il y avait je comprends le côté rafraîchissant, diversité, etc. Et moi aussi, je pensais qu'ils allaient finir ensemble. Et je me suis dit, ah bon, bah c'est cool que pour une fois, ce soit pas aussi prévisible. Mais pour moi, il y avait quand même trop de clichés. Et on va dire, assumés dans le sens, pas tant que ça, on s'en moque des clichés, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a eu un côté où j'étais hyper emballée par le pitch et tout. Et je me suis un peu ennuyée devant, donc bon.
Ouais, bah, il faut pas avoir d'attente énorme, hein, ça reste... Je pense pas qu'ils cherchent à se moquer des clichés, justement. Je pense qu'ils les prennent à fond parce qu'il y a le côté réconfortant. Et puis, ils essaient d'apporter quand même des touches un peu nouvelles. Mais non, il faut pas s'attendre au film de l'année. Mais c'est vraiment... c'est une petite comédie romantique réconfortante à la Disney Channel, à la High School Musical. Et pourquoi pas, ça deviendra pas un classique comme l'a été High School Musical. Mais franchement, moi, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est réussi.
Ben, moi, il y a un autre truc qui m'a un peu déplu, c'est, comme je disais au début, les mimiques de l'actrice, où je trouve qu'elle fait qu'elle est... Tu vois, d'un côté, c'est bien d'être expressif du visage, tout ça, de montrer ses émotions, mais je trouve que des fois, c'est trop... J'ai l'impression des fois que c'est surjoué. Et dans la, du coup, la série que je vais enchaîner, c'est Dr. Doogie, où c'est également elle qui joue dedans. Je trouve que, pareil, il y a des moments où... Où ça me perturbe et ça me fait tiquer. Et donc j'ai regardé sur internet, sur les avis, pour voir s'il y avait que moi qui voyais ça ou... Et c'est un truc qui est revenu plusieurs fois, donc je me suis dit, je suis pas totalement folle. Mais je sais pas si c'est juste elle qui est tout le temps comme ça, ou si effectivement elle surjoue un peu pour... Je sais pas.
L'actrice que tu parles, c'est qui? C'est
Peyton Elizabeth Lee.
Je la connais pas.
Et dans la série, bah du coup, Docteur Doogie, c'est pareil, je trouve que... Elle a un peu ce côté-là, mais ça m'a moins perturbée dans le sens où, oui, c'est l'héroïne principale, mais il y a plein d'autres personnages, il y a toute sa famille, il y a ses collègues et tout, donc on la voit pas, elle, tout le temps. Mais voilà, c'était juste un petit détail. Et en tout cas, Docteur Doogie, c'est une série américaine de 2 saisons, de 10 épisodes chacune. Et pourquoi je précise sur le Docteur parce que ça avait fait scandale quand ils ont sorti le titre. Parce qu'en fait, il y a eu une série des années 90, Docteur Doogie, c'est une série qui a révélé Patrick Neil Harris, où c'était un petit garçon prodige médecin. Et là, c'est un genre de spin-off, slash suite, enfin, c'est un peu particulier. Donc elle aussi, elle s'appelle Laela Kamealoa. C'est une adolescente qui vient d'Hawaï, donc tout se passe à Hawaï, surdouée, qui est diplômée du coup de médecine alors qu'elle a juste 15-16 ans. Et elle va jongler entre sa carrière de médecin et tous les aléas de la vie d'adolescente à Hawaï. Et en fait, ses collègues la surnomment Doogie également, en hommage à la série des années 90. Voilà, ça, donc, voilà le petit lien. Et donc, ils ont changé, comme c'était une femme, ils ont écrit docteur avec un E à la fin. Et ça avait fait un scandale, bien sûr, sur les réseaux. Quoi, mais ça s'écrit pas comme ça, docteur avec un E, ça n'existe pas. Enfin voilà, bon, toujours les mêmes sur Twitter, hein, mais bien sûr.
Non, ça à faire.
En tout cas, voilà, c'est un peu comme ton film, c'est pour ça que j'en parle juste après. C'est-à-dire que c'est assez sympathique, c'est familial, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais là, tu vois, j'ai passé un meilleur moment, on va dire. Parce que les épisodes sont assez courts, je pense. Il y a plein d'épisodes où, bon, je dirais pas que je me suis ennuyée, mais je faisais autre chose en même temps, tu vois, c'était très bien. Après, il y a certains épisodes qui sont vraiment sympas. En tout cas, on se prend au jeu, on veut savoir la suite, c'est assez mimes. Faut savoir que, ok, c'est une docteure, mais ça tourne très très peu autour de la médecine. On voit quelques cas, mais alors vraiment très peu. C'est surtout centré sur la famille, les amitiés, enfin voilà, tout ce genre d'histoires qui sont assez prévisibles, mais toujours avec des belles morales, plein de bonnes valeurs, du typique Disney, quoi. Et j'ai juste, voilà, un dernier point, j'ai préféré quand même la saison 2, donc si vous trouvez ça sympathique, la saison 1, bah n'hésitez pas à pousser à la 2, puisque les histoires sont un petit peu plus profondes, on est plus dans l'émotion, donc pour spoiler un tout petit peu la 2, elle va avoir un petit crush sur un de ses patients qui est atteint d'un cancer, et donc ça va parler un peu de, voilà, la difficulté d'être enfermée dans un hôpital, le sens de la vie, etc. Et c'est un peu plus profond, et la saison 2 est un peu plus... Et un peu plus sympa, je trouvais. Mais en tout cas, voilà, ça reste rien de révolutionnaire, mais très sympathique.
C'est des longues saisons ou pas?
Non, 10 épisodes, ouais. Mais je crois que les épisodes sont assez courts, en plus.
Ok.
Ouais, je connais pas.
Je connaissais pas du tout non plus.
En fait, je pense que c'est le genre de truc que je vais mettre dans ma liste, et puis que je vais repousser, malheureusement. Parce que, tu vois, c'est le genre de série où tu dis « Oh, c'est mignon, pourquoi pas ?» Mais t'as toujours un truc plus pressant à regarder devant, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et puis après, il y aura 10 saisons, t'auras la flemme de regarder.
C'est ça. Mais là, on sait pas trop. En fait, la saison 2, elle se termine, ça pourrait se terminer comme ça, en fait. C'est pas obligé qu'il y ait une suite. T'as quand même envie d'avoir une suite, parce que tu veux savoir voilà, ce qui va se passer après. Mais c'est pas obligé, ça se finit pas sur un cliffhanger, il y a une belle fin, avec une morale assez sympa, plutôt moderne. Mais je sais pas, c'est pas annoncé. Je laisse la parole à Cédric, qui va également parler d'une série, mais qui a l'air un peu plus mature.
Rien que par le nom, d'ailleurs. Hein.
Pour le coup, ça passe pas sur Disney Channel, c'est pas pour les adolescents. j'ai pas regardé s'il y a des conseillers, c'est des conseillers sûrement, je sais pas, 16 ans, je pense, je sais pas, j'ai pas regardé, faudrait regarder.
Je fais un petit
check-in
pendant que tu continues voilà. à présenter.
Donc moi, je vais vous parler de la série The Old Man, pas de jeu de mots avec mon âge, hein. j'ai pas fait ça pour ça, c'était pas contractuel. Voilà. Sinon, donc The Old Man, c'est une série américaine basée sur le roman éponyme de Thomas Perry, publié en 2017. Donc, elle est produite par Jonathan Steinberg et Robert Levine, notamment connu par la série Black Sail. J'ai mentionné la série Black Sail parce que sur le dernier épisode de Popcorn Therapy, Marjolaine, elle en a parlé.
Ouais, elle aime beaucoup.
Donc c'est pour ça que elle aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai marqué. Et elle est réalisée aussi par John Watts, qui est connu surtout pour sa trilogie Spider-Man du MCU. Donc, c'est une série en 7 épisodes. Elle a été diffusée sur la chaîne américaine FX avant d'arriver sur Disney+, le 28 septembre 2022. Donc, ça fait un petit moment qu'elle est sortie. On y retrouve notamment, surtout en tête d'affiche, c'était Jeff Bridges, c'est la vedette du film. John, je sais pas comment le prononcer, John Céline, comment tu dirais, Let Go.
Comment tu l'écris?
Let Go, je sais pas. Et Amy Brandman, qu'on retrouve dans The Leftovers, la magnifique série The Leftovers, voilà. Et alors synopsis, c'est donc Jeff Bridges, c'est Dan Chase, qui est un ancien agent de la CIA. Il vit caché avec ses deux chiens depuis plusieurs années, et il est contraint de s'enfuir quand un soir un intrus pénètre dans sa maison et tente de l'éliminer. Et donc à partir de là, le directeur adjoint du FBI, Harold Harper, est chargé de le retrouver. Et bon, c'est une chasse à l'homme avec tout un passé qui se dévoile petit à petit. Donc c'est un thriller, hein. c'est un thriller et qui reprend vraiment tous les codes du genre, hein. Donc du mystère, du suspense, une intrigue, de la violence. Donc c'est un vrai thriller.
D'ailleurs, j'ai vérifié, hein, c'est interdit aux moins de 16 ans.
Ouais, voilà, je me doutais que c'était par là, ouais. Donc moi j'ai beaucoup aimé la série. Donc déjà juste pour Jeff Bridges. Moi, déjà je l'ai regardé à la base sur l'affiche parce qu'il y avait Jeff Bridges et parce que bon, il a un charisme fou dans la série.
Il a un charisme fou tout le temps, hein. C'est pas que dans la série.
Déjà, il a une aisance naturelle, le rôle du vieux monsieur lui va à merveille. Il correspond à lui. D'ailleurs, il a été nominé au Golden Globe 2023 dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique. Et comme John Lithgow aussi, qui a été lui nominé dans le meilleur acteur dans un second rôle dans une série musicale, comique ou dramatique. Je savais pas qu'on mélangeait tout. Je suis là.
Ouais, c'est vraiment bizarre.
Les premiers épisodes, ils paraissent un peu lents. Par exemple, je sais que toi, Charline, tu n'aimes pas quand c'est lent, un peu. Ça te plaît pas. Mais faut continuer parce que en fait le premier épisode vraiment pose le est centré sur ce vieux monsieur, donc il se met un petit peu en son rythme, mais après plus l'intrigue avance et que les enjeux se dessinent, ça s'accélère et là il y a beaucoup de scènes d'action qui sont bien faites et on est pris par les épisodes jusqu'au bout. Et après au niveau des personnages, ils sont très bien écrits. Voilà, ils sont fidèles au thriller, ils sont sombres, torturés, mais il y a beaucoup de tendresse entre eux et ça s'oppose pas mal à justement à la brutalité du récit. Et donc voilà, c'est une série où l'on voit deux messieurs se faire attraper par leur passé. Et qui est ponctué comme ça par des flashbacks qui expliquent un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Et donc je la conseille. Moi, si j'en dois lui donner une note, je donnerais un 4+. À la rigueur, le bémol, si je dois mettre un mais, comme a dit Charlie. Donc, moi j'aurais aimé presque que ça se finisse sur une saison. Moi j'aime bien quand il y a qu'une saison. Là, il va y avoir une saison 2. Après, faut voir comment. Comment ça va être ramené la saison 2, mais moi j'ai peur à chaque fois que ça s'étire un peu trop. Ça aurait été fini sur 7 épisodes, ça aurait été parfait. Voilà.
Ouais, ils veulent toujours plus d'argent.
Mm. Ouais.
Mais la façon dont on parle, ça me fait vraiment penser, dis-moi si je me trompe, mais rien qu'en lisant tout ce que tu as écrit, la façon dont on parle et tout, le pitch, ça me fait un peu penser à avec Andrew Garfield, la série aussi.
Sur l'ordre de Dieu.
L'ordre de Dieu qu'on a aimé tous les deux. Enfin, oui. Le sujet n'est pas le même, mais non. La façon dont c'est un peu, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu la même ambiance, comme ça, avec beaucoup de métaphores, beaucoup de flashbacks, des trucs très intenses, avec parfois des scènes où il y a peu de paroles, mais des scènes qui disent tout en même temps, tu vois.
Ah oui, il y a beaucoup de moments. D'ailleurs, sur le premier épisode, il y a toute une partie où ça parle, c'est vraiment silencieux, ça parle pas. On voit. On ne sait pas trop où on en est. Et voilà. Quand tu parles des métaphores, c'est drôle parce que ça c'est un truc que j'aime pas trop. Des fois, il y en avait trop dans la série. Vous savez, ces discussions où les gens se regardent sérieusement et puis d'un discours tout simple, ils partent sur des métaphores. Il y a que qui se comprennent. Nous, dans la vraie vie, ça nous arrive. On serait là, quoi. J'ai rien compris. Et d'ailleurs, je pense que même la série s'en a aperçu parce que sur un des épisodes, il y a les deux, bon, je dis pas parce que après sinon c'est quand même une série à suspense, faut pas dévoiler le truc, et ça part comme ça, un des personnages part sur une métaphore, l'autre le regarde sérieusement, et au bout d'un moment il arrête, il lui dit mais arrête avec tes phrases, ça, qu'est-ce que tu veux dire, dis-le simplement. et je pense que eux-mêmes ils s'en aperçus, ils ont dit ben là on déconne un peu trop, on va simplifier le tout. Si vous voulez une bonne série sérieuse, bon c'est sur un peu plus adulte. Je vous la conseille. Et pour la performance de Jess Bridges, je vous la conseille.
Mais ça donne envie.
Voilà.
Mmh. Ouais, Cédric, il déconne pas avec les films Disney Channel. Il regarde des trucs de
meurtre. Ouais, c'est ça.
Ouais. Voilà.
Non, en vrai, ça a l'air pas mal. Ce qui m'étonne, c'est que... Enfin, je suis peut-être passée à côté, mais j'ai l'impression de ne jamais l'avoir vu passer sur Disney+.
Ouais, moi non plus.
Que c'était un peu... C'est un peu passé en sous-marin, comme ça. C'était quoi ? C'était une production FX ?
On va aller voir à quoi ça ressemble.
Ouais. Et je l'avais en... En gros, quoi, proposé, quoi. Enfin, ouais.
C'est parce que tu regardes des trucs de mecs à base de meurtre et de machine gun.
C'est quand j'ai dû rentrer mon âge sur mon compte Disney+.
Ils sont dit où là ? On va lui proposer un truc.
Voilà, on va lui proposer ça. Voilà, il va être content.
Ouais, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Ok, bah cool, Cédric. Bon, après, voilà, effectivement, on a fait les séries adolescentes. Maintenant, on est avec le vieux monsieur, The Old Man. Mais il n'est pas mort maintenant. Céline, à toi.
Waouh, ok.
Il n'est pas encore. Oui, bon, ça va, je traduis voilà, littéralement, tu vois.
Ouais, alors merci beaucoup pour cette sublime transition, Charline. Donc je voulais parler d'une série qui n'est pas du tout dans la même ambiance que celle de Cédric, je vous le dis tout de suite. Donc c'est une série qui s'appelle « Not Dead Yet ». Et je ne sais pas si le... Je ne crois pas que le titre a été traduit en VF non plus.
Même.
Très bien, parce que ça aurait été un peu bizarre. Pas mort maintenant, justement, comme tu as dit, c'était un petit peu bizarre. Alors, pas du tout la même ambiance, parce que c'est une sitcom américaine. Donc, vraiment sitcom. Franchement, voilà. Alors, je vais vous donner des noms des actrices, essentiellement, en fait, qui sont assez connues dans le monde du sitcom. Hein. C'est pas... voilà. On a Gina Rodriguez, qui était dans Jane the Virgin. Qui est assez connue dans le voilà. Donc c'est elle évidemment c'est le personnage principal. Je reviendrai dessus. Il y a Lauren H qui pour ceux qui ont regardé le sitcom Superstore, oui non. Bon, non. Ok, peut-être que c'est que...
Ah
c'est...
Non, là, ça me dit...
Super, super non, quoi, excuse-moi, parce qu'avec l'accent extrêmement
attends,
magnifique...
Attends, je vais le faire à la belge.
Superstore,
Superstore. Superstore.
Superstore, d'accord. Parce que là, j'avais compris. Superstore, tu vois, genre comme si tu le disais, mais un peu à la canadienne, à la québécoise, tu vois.
Non, Clem, l'accent québécois, non.
Et donc, je me suis dit... Superstore, on partit, yeah, on partit dans la Superstore. Tu vois, il y avait un petit côté comme ça.
C'était mieux la fois dernière, il n'y avait pas Clem.
Ouais.
Mais...
Je te taquine, évidemment.
La rébellion des chroniqueurs, là.
C'était
pas très sympa.
Je taquine.
Elle nous déstabilise.
Ben oui, c'est ça, elle nous déconcentre. Non, bref, Superstore, c'est...
Ça, j'ai fait de l'humour, je vous détends. C'est juste ça, c'est pour faire rigoler.
T'inquiète. Non, mais donc, Superstore, c'est aussi une sitcom américaine qui est, elle est assez connue, en tout cas au Royaume-Uni. Elle est sur Netflix, donc on va pas en parler parce que c'est la concurrence. Et une autre femme assez connue dans le monde des sitcoms, si je puis dire, qui s'appelle Anna Simone ou Anna Simone, je ne sais pas comment elle prononce son nom, qui est Sissy dans New Girl, donc la pote mannequin de Jess dans New Girl. Et j'espère que vous connaissez New Girl quand même.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Ça va. De nom.
Bon bref.
Non. New Girl.
Bon, Cédric, faut que tu rattrapes hein, les sitcoms un petit peu. Pour te détendre entre deux épisodes de The Old Man, tu peux...
voilà.
Bon, bref, pour ceux qui connaissent, il y en aura sûrement de ceux qui écoutent qui auront les refs, donc ça ira. Donc, Gina Rodriguez, donc c'est... voilà, donc là, le personnage principal, comme je disais, qui s'appelle Nell. Donc, je vous fais juste un petit synopsis, hein, sans spoiler. Donc en fait, elle était... c'est une journaliste, en fait, qui a quitté les États-Unis. Alors, on ne sait pas... Je ne suis pas sûre de où c'est exactement aux États-Unis, mais bon, c'est aux États-Unis. Elle a tout quitté pour vivre avec son mec à Londres. Et ça s'est très mal passé. Il l'a trompée avec une autre fille. Et donc, bref, elle revient célibataire après 10 ans d'avoir tout abandonné. Elle revient donc pour essayer de renouer avec sa carrière de journaliste. Et elle rentre dans la boîte, le journal, parce que dans la boîte de sa meilleure amie, dans le journal. Où sa meilleure amie travaille. Bref. Du coup, comme elle est un peu revenue comme un cheveu sur la soupe, expression de vieux Clem, on lui demande du coup de faire les avis de décès.
Ça, c'est mon podcast aujourd'hui, oui. Hein. Franchement, c'est.
Non, mais...
Là, tiens, t'es pas terminé, bah tiens, un petit coup dans les côtes, allez.
C'est une bonne guerre. Donc du coup, on lui donne les avis de décès. Voilà. Et en fait, elle commence à voir les fantômes des défunts sur lesquels elle écrit, en fait.
Ah ouais, c'est trop cool ouais. C'est comme, comment elle s'appelle
Ghost Whisperer, là.
Ouais.
Ah, t'as vu, j'ai des rêves de vieux.
Non, en vrai, cette série, c'est pas une série de vieux.
Bon, tu arrêtes maintenant.
Bah, c'est quand même un
rêve
peu...
de vieux.
Non, c'est pas si vieux que ça.
C'est pas tout récent,
ouais,
quoi.
On n'était pas si... enfants quand ça sortait, tu vois.
Non, c'est pas si vieux que ça, quand
2005.
Même.
Quelle série j'ai...
Ghost Whisperer
avec Jennifer Love Hewitt. Tu sais ton amour d'adolescence
Ah, Jennifer Love Hewitt.
Un de ses nombreux amours d'adolescence.
Oui.
C'est la fête à tout le monde ce soir. Bref, voilà. Donc, elle est la seule à les voir et à les entendre, évidemment. Donc, ça engendre pas mal de moments comiques, forcément, parce qu'on la voit souvent parler toute seule. voilà. Et en fait, les fantômes sont là pour lui raconter leur histoire afin que leur avis de décès soit correct et soit mieux. Mais en même temps, ces fantômes-là vont l'aider dans sa vie à elle aussi à surmonter son break-up, le fait qu'elle se sente ratée, son coloc qui est assez bizarre d'ailleurs, elle vit avec un coloc un petit peu bizarre. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout ça, c'est très comique. Chaque épisode est donc évidemment un nouveau fantôme par épisode, vous vous en doutez, hein, comme dans tout sitcom, mais il y a quand même une trame sur toute la saison. Et voilà. Moi, j'ai bien aimé parce que... En fait, je veux pas raconter plus parce qu'après, je vais spoiler. Vraiment, je vous la recommande. C'est léger. Hein, c'est pas du contenu intellectuel. Hein, c'est vraiment de la sitcom américaine. Voilà, avec plein de petits... rebondissement comique, voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais justement, c'est pour ça que j'aimais, parce que c'est léger, mais il y a des bons messages, un petit peu, surtout pour les femmes célibataires depuis 30 ans. c'est bien, c'est des bons messages où justement, bah voilà, les trucs importants dans la vie, c'est les amis, les gens qui t'entourent, et ta carrière a pas besoin d'être, t'as pas besoin d'être Kim Kardashian, quoi. En gros, c'est ça. Voilà, donc ça se regarde sans se prendre la tête. J'ai trouvé que les personnages étaient bien écrits, ils se développent en plus. Il y a vraiment du développement épisode par épisode. Pas que de Gina Rodriguez, mais aussi les autres autour. Voilà. Et donc, chaque épisode est à peu près 20 minutes. Je ne me souviens plus combien il y a d'épisodes. J'ai envie de dire, à l'américaine, ça doit être entre 15 et 20. Comme les saisons... toutes les séries où c'est des épisodes de 20 minutes, c'est à peu près entre 15 et 20. Voilà. Donc, ça se regarde quand vous voulez. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas besoin de planifier le truc, parce que c'est 20 minutes, si vous avez envie de vous détendre. Et je pense que vous allez devenir, comme moi, un petit peu accro, parce que c'est... Voilà, franchement, j'ai trouvé ça super sympa.
Ouais, moi, ça me tente bien. Ah, moi aussi, c'est le truc qui va me plaire.
Voilà. Et ce que j'ai apprécié, c'est que les personnages principaux sont essentiellement féminins, et les caractères secondaires... excusez-moi. Les personnages secondaires sont masculins. J'ai trouvé que c'était sympa aussi, comme changement.
Okay. Ouais, c'est sûr.
Et du coup, tu mettrais combien de plus?
Sur 5?
Ouais.
Oh, écoute, je donnerai un gros 4.
C'est bien.
Ouais.
C'est vrai qu'on a perdu cette habitude. On faisait des 1 à 5 plus et puis on est passé au top, flop ou mais.
Bah non, moi je dis à chaque fois, je me dis toujours 4 plus. Mais tu aurais mis combien toi à ta série, à ton film? C'est un film, ouais, film.
3 plus.
Ok. Et toi, Charline?
Ouais, 3 plus aussi, c'est pas mal.
Il n'y en a pas mis pour Peter et Wendy.
Oh, franchement, 2.
Je pense mettre un 3,5.
T'es généreuse, hein.
Ah ouais, quand même.
On va pouvoir enchaîner, et là je n'ai aucune transition, désolée, même si l'autre était pourrie, là je ne tente même pas, avec le prochain contenu de Clem.
Alors oui, moi j'ai vu le film Le Crater, donc c'est un film qui est réalisé par Kyle Patrick Alvarez, qui est sorti le 12 mai 2023, donc il n'y a pas très longtemps, et qui est sorti directement sur la plateforme Disney+. Alors, avec des acteurs tout jeunes, puisque c'est majoritairement des adolescents. Donc on a quand même McKenna Grace qui est connue parce qu'elle a joué la version jeune de Sabrina dans la série Sabrina l'apprenti sorcière, enfin Sabrina l'apprenti sorcière,
elle a joué
la nouvelle
version jeune de tout le monde, hein, parce qu'elle est aussi dans I, Tonya, c'est la gamine qui joue la version jeune de tout le monde en ce moment.
En effet. Et mais donc c'est vrai qu'on la voit quand même pas mal dans Sabrina, et les gens avaient été choqués par la ressemblance avec l'actrice qui joue Sabrina adulte. Quand je parle de Sabrina, je parle pas de la série des années 90, hein, ouais. Enfin années 90-2000. Je parle de Sabrina qui est sortie ici sur Netflix récemment, qui je trouve assez convaincante. Elle avait aussi joué dans un film qui était assez sympa, où elle jouait une enfant surdouée avec Chris qui joue Captain America.
Chris Evans.
Voilà, merci, Chris Evans. Voilà, un film où il jouait son frère ou son père, je ne sais plus trop, mais elle jouait une gamine, voilà, surdouée. C'était assez sympa, ce film-là. Bref.
Et Marie, que t'appelles le film?
Oui, c'est ça, Marie, c'est ça. Il y a également Billy Barratt, que j'ai trouvé absolument trop mignon et adorable. Isaiah Russell Bailey et Kit Cudi. Voilà, Kit Cudi joue dans ce film.
J'ai adoré Kit Cudi.
C'est mignon, ça.
C'est un adulte, hein. C'est pratiquement un des seuls adultes du film.
Ah, je le connais pas, mais
il joue
le
père, en fait, d'un...
Mais c'est un chanteur.
Ah ouais, elle est vraiment trop jeune. Hein.
Mais Emilie, c'est pas possible.
Moi, j'allais déjà en boîte quand Kiki chantait.
Non, mais je sais pas, le nom me dit quelque chose, mais j'aurais pas pu dire que c'est un chanteur. Donc, Le Crater.
Donc, Le Crater. Alors, le pitch du Crater. Donc, en 2257, le jeune Caleb Channing, donc, qui est interprété par Isaiah, est né et a été élevé dans une colonie minière sur la Lune et va très bientôt être transféré sur une autre planète qui s'appelle Omega et qui, en gros, est la Terre bis, quoi. Parce que la Terre n'est plus habitable, enfin, plus vraiment, et donc, il faut trouver une autre planète sur laquelle vivre, voilà, dans le futur. Sa navette doit décoller dans 3 jours, mais avant de partir, il veut se lancer dans l'exploration d'un mystérieux cratère lunaire, selon les derniers vœux de son père, qui est récemment décédé et qui adorait cet endroit parce qu'il y allait avec la mère de Caleb. Donc là, l'orphelin est donc accompagné de ses trois meilleurs amis, Dylan, Borné et Marcus, ainsi qu'une nouvelle venue de la Terre qui s'appelle Addison et qui est donc interprétée par McKenna Grace. Donc ils vont voler un rover pour s'aventurer loin du dôme dans lequel ils vivent tous et ils vont aller vers une zone interdite.
Ça, ça a l'air cool.
C'est le pitch.
Je pense que ça pourrait plaire à mes élèves aussi.
Voilà. Ouais, c'est vraiment, ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un film de science-fiction familiale. Vraiment, il y a rien de, ça fait pas peur, c'est pas, c'est familial, c'est super sympa. Donc moi, je l'ai regardé avec mes élèves et franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Mes élèves ont beaucoup aimé aussi. Donc c'est vraiment à voir avec des enfants ou des jeunes ados. Les effets spéciaux, pardon, ils passent super bien. Les rebondissements sont bien aussi. Les liens d'amitié entre les personnages. Très bien également. Franchement, je trouve que c'est sans prétention. Mais bah ça se laisse voir et ça rappelle un peu les films de gosses qui faisaient fureur dans les années 80, début des années 90, genre Stand By Me, Les Goonies ou encore Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais à la sauce 2023, voilà, et revu et corrigé par Disney. Donc, il y a vraiment le côté des beaux effets spéciaux, des beaux acteurs bien interprétés avec une belle diversité. Voilà, il y a un asiatique, il y a un métis, il y a vraiment une belle diversité, donc ça c'est chouette. Franchement, j'ai passé un bon moment, donc moi je lui mettrais 3+ et je le conseille aux parents, je le conseille aux tout jeunes, vraiment à voir parce que c'est interdit au moins de 9 ans, donc et encore honnêtement, même si vous le regardez avec un enfant qui a moins de 9 ans, il y a rien de choquant, on fait pas de mention de sexe, pas de mention de rien du tout. Il y a des petites histoires, une petite histoire d'amour, gentillette, mignonnette. Franchement, c'est très très bien, ça passe très bien et je le conseille. Voilà.
C'est un peu l'épisode des 3+, non ?
L'épisode ouais. Des mais. Ouais, j'ai l'impression qu'on a rien de trucs qui nous a vraiment emballés, mais des trucs un peu plus obscurs qui sont sympas.
Ouais, moi j'ai un 5+, hein, sur mon deuxième contenu.
Ah ouais. Non, moi, mon deuxième contenu, c'est un 3+ aussi. Pareil, j'ai passé un bon moment, mais rien de... Waouh, c'est exceptionnel.
Disney+, si vous nous entendez, fournissez-nous du contenu exceptionnel, on est en manque.
Et toi, Émilie, le prochain, combien de plus ?
Ouais, c'est aussi un 3+, honnêtement, je pense. Je n'ai pas trouvé de trucs qui m'ont mise en extase dernièrement sur Disney+. Mais du coup, je suis allée fouiller dans ma liste des trucs un peu... Voilà, un peu plus obscur. Donc j'ai regardé le documentaire, comme ça on a quand même un documentaire dans la liste, Idina Menzel, Une vie sur scène, ou Idina Menzel, Which Way to the Stage, qui est une référence à Rent, sur laquelle on reviendra en version originale. C'est un documentaire qui est sorti en 2022, si je dis pas de bêtises, directement sur Disney+, et qui retrace donc la carrière d'Idina Menzel, la chanteuse. On la suit en fait, l'approche qu'ils prennent, c'est qu'on la suit pendant les mois qui précèdent son concert au Madison Square Garden à New York, on la suit pendant sa tournée aussi, qui se termine par le Madison Square Garden, et à travers ça, on revient sur les étapes majeures de sa carrière de chanteuse et aussi de sa vie privée. Alors Idina Menzel, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Dans le Disney Game, elle est surtout connue comme dans la voix originale d'Elsa dans La Reine des Neiges. Mais Idina Menzel, c'est aussi et avant tout une star de Broadway qui a été la première à jouer le rôle d'Elphaba dans Wicked, de Maureen dans Rent, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Elle a joué plein d'autres trucs sur Broadway. Elle a aussi sorti plusieurs albums solo qui sont un peu moins connus ici mais qui ont l'air de bien marcher aux États-Unis. Elle a joué au cinéma, on l'a vu dans Enchanted aussi. Donc,
dans
Glee. Carrière assez complète quand même. Dans Glee ?
Bien sûr, dans Glee.
Elle a un rôle pas Glee, important.
Moi, bah écoute,
t'as essayé, mais ça
Edwige,
n'a pas marché.
Si tu nous entends, je suis désolée.
Tu t'es arrêté trop tôt. On t'a prévenu.
Ouais, non, je sais. Bah oui, donc voilà, documentaire sur la vie d'Idina Menzel. Alors j'avoue, moi j'aime beaucoup la chanteuse. Enfin, j'admire beaucoup la chanteuse en tant que telle. Après sa vie privée, je m'y intéressais pas tant que ça. Mais le documentaire est vraiment intéressant et est très touchant surtout. C'est très émotionnel parce que je trouve qu'elle se livre beaucoup. Elle dévoile énormément de sa vie privée, c'est vraiment un parti pris. Et donc elle parle par exemple du divorce de ses parents et de comment ça l'a affecté, de son propre divorce aussi. On voit beaucoup comment elle essaye de jongler entre sa carrière très compliquée, ses tournées, etc. et son premier enfant. Elle se culpabilise parfois beaucoup sur le fait qu'elle doit gérer sa vie de famille en parallèle des tournées, qu'elle n'est pas toujours là pour son fils, etc. Et alors on voit aussi, ça m'a fort étonnée, on voit tout son parcours pour essayer d'avoir un deuxième enfant, parce qu'en fait elle s'est remise en couple, mais à un âge un peu tardif, et donc ils essayent d'avoir un enfant ensemble, et alors c'est IVF, aller chez le médecin toutes les semaines, etc. C'est un processus qui est long, compliqué, et qui est dur émotionnellement, et en fait elle montre tout ça, quoi. C'est fort sans filtre comme documentaire. Ça, et puis en parallèle, on a des images de ses concerts, et alors on y découvre des chansons qu'elle a écrites elle-même, qui sont très chouettes, et pas mal d'images d'archives intéressantes. Ça, j'ai beaucoup aimé sur son parcours à Broadway, sur ses débuts dans Rent, sur les répétitions de Wicked, etc. Ça, moi, c'est l'aspect qui m'a fort intéressée. Donc, ça va pas parler à tout le monde. C'est-à-dire, si vous savez juste vite fait, ah oui, c'est celle qui fait la voix d'Elsa, bon, je pense que vous n'allez pas accrocher, clairement. Mais pour quelqu'un qui a un peu d'intérêt pour le monde de la comédie musicale, ou juste qui aime bien les documentaires un peu behind the scenes, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'une tournée, dans les coulisses d'un spectacle, ben c'est assez intéressant. Et moi qui ne suis pas très documentaire, vous le savez, ben franchement, j'ai bien accroché. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le côté vraiment personnel et émotionnel, sans être gênant, parce que des fois, il y a aussi des, voilà, on peut avoir aussi des documentaires où les gens étalent leur vie de manière où ça devient un peu gênant, parce qu'on a l'impression de pénétrer dans leur intimité. Là, c'était bien dosé, je trouve. Elle parle de ses épreuves, des épreuves qu'elle a traversées, qui peuvent parler à plein d'autres gens. Tu as ça mêlé à de l'historique sur sa vie, sur Broadway, sur La Reine des Neiges aussi, donc un bon mélange.
C'est dans ma liste, moi, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est Broadway et que je l'aime beaucoup, elle. Avant de la connaître pour la voix d'Elsa, effectivement, j'avais déjà des chansons sur mon Spotify de Rent et tout, donc faut que je le regarde, faut juste que je me motive.
Oui, pareil.
Non, il est chouette, franchement, il est chouette. Et c'est... Allez, là, moi, j'admirais beaucoup ses talents de chanteuse, mais sans connaître vraiment la personne qu'il y avait derrière. Elle a une personnalité qui est très intéressante et qui est très... résiliente, oui, c'est le mot. Donc vraiment chouette.
Il y a un passage qui déjà...
m'a... Vas-y.
Non, je disais, on le voyait déjà un petit peu dans le documentaire sur La Reine des Neiges 2.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a un passage qui est très touchant, qui intervient plutôt vers la fin, où elle fait sa tournée dans différentes villes des États-Unis et elle en profite pour aller visiter une école. Et bon, vous savez, dans les lycées américains, souvent, ils montent une comédie musicale chaque année avec les élèves qui s'inscrivent. Et donc là, ils montaient Rent, qui en plus n'est pas facile à monter dans un lycée américain, parce qu'ils sont très puritains, donc il y a plein de choses à censurer. Mais soit. Et donc, en fait, elle rend visite à la troupe, quoi, aux gamins qui sont en train de monter leur comédie musicale. Alors tu vois qu'ils sont en pleine répétition, et puis il y a Idina Menzel qui débarque, évidemment, c'est la folie. c'est super touchant. Et puis alors, elle vient les voir chacun, elle leur donne des conseils, etc. Il y a un côté, ça montre une certaine générosité aussi que j'ai trouvé très chouette.
On va pouvoir passer à également un genre d'autobiographie, mais un peu dans un style différent, voilà, un autre biopic, mais pas version documentaire.
Non. Donc là, on est sur Flaming Hot.
Oui, ce film-là, je voulais trop le voir.
Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le hot du dernier épisode de Zapping. Hein. On n'est pas dans les séries coréennes à Charline ou les Chippendales à Emily. C'est pas du tout le même genre. Donc Flaming's Hot, c'est le film réalisé par Eva Longoria, son premier film en tant que réalisatrice. Alors son premier film, je suis pas sûr parce que j'ai regardé un petit peu. Alors apparemment elle a réalisé un autre film. Mais j'ai cherché, il n'est pas sorti. Il est ou il n'est pas sorti ou il n'est pas encore sorti. Alors bon, c'est bon, celui-là, du moins, il est sorti. Il est sorti en 2023, donc sur Hulu aux États-Unis et donc Disney Plus pour le reste de la planète. Voilà. Et donc Flaming Hot, c'est un biopic. Ça adapte l'autobiographie de Richard Montagnez, un Américain d'origine mexicaine qui est un simple agent d'entretien au sein d'une entreprise Frito-Lay qui fait des chips en gros. Et c'est en observant la communauté mexicaine dont il fait partie, une communauté qui est quand même aux États-Unis ignorée par toute une partie du pays. Et il a une idée lumineuse et il met au point avec sa femme une recette de Cheetos ultra épicée. Et il arrive comme ça à convaincre le big boss de Pepsi, le big boss de la Pepsi Company. Ça fait partie du groupe de la Pepsi Company, qui est joué par le génial Roger, on peut dire, hein, Enrico, qu'on peut retrouver dans Monk ou dans la fabuleuse Miss Maisel.
J'aime cette série.
Ouais, moi c'est pareil. Il est excellent. Et donc il arrive à le convaincre pour lancer la production. Voilà. Et donc ça c'est synopsis du film. Donc moi j'ai vraiment passé un bon moment. Il y a une ambiance très hispanophone, très mexicaine, avec plein de couleurs comme ça, une bande son, une super bande son. Donc le film, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est rythmé par la voix off de Richard Montagnès. En fait, il raconte lui-même son histoire. Et Richard Montagnès, qui est joué, je l'ai pas dit, par Jess Garcia, qui joue super bien, qui est touchant du début à la fin. Et le film comme ça, c'est plein de bons sentiments, mais sans jamais en faire trop. Toi, ça rentre pas dans le pathos. Il y a beaucoup de second degré, beaucoup d'humour. Et on passe vraiment un bon moment. Par exemple, il y a une scène où il raconte justement les problématiques de la communauté mexicaine, la pauvreté pour cette communauté. Et il arrive comme ça dans une épicerie, il veut s'acheter des bonbons au chocolat, et puis le propriétaire de l'épicerie le regarde comme ça avec le regard bizarrement, il dit mais t'as de l'argent pour payer, et lui dit oui, il lui montre les billets, et là il y a un policier qui arrive par derrière et qui lui dit mais à qui t'as volé ça, alors que lui il avait pas volé cet argent-là. Et donc ça, alors c'est quand même, c'est du racisme. Hein. Et lui, alors il raconte l'histoire, il dit comment ça aurait dû se passer. Alors on voit le flic qui dit mais bravo mon petit, nanana. Et puis finalement, il dit non, ça s'est pas passé comme ça. Et on le voit, il se fait arrêter par les flics parce qu'il accuse d'avoir volé cet argent qui était à lui, qu'il a pas volé. Donc voilà, c'est beaucoup de second degré d'humour. Et donc, moi je dis bravo à Evan Longoria pour ce joli film. Voilà, elle nous promène dans cette famille d'origine mexicaine et même plus généralement toute cette communauté qui se bat pour exister dans leur pays, qui est les États-Unis. Et donc, comme je viens de dire, on y voit toute la violence raciste qu'ils subissent au quotidien depuis tout petit et les barrières sociales à lesquelles ils sont confrontés. Mais bon. On voit qu'elle sait de quoi elle parle, puisque les origines d'Eva Longoria sont des origines mexicaines, donc elle parle de sujets qu'elle maîtrise. Mais tout en gardant, en montrant du racisme et tout, c'est un film qui se prend pas au sérieux et qui est touchant et marrant. Voilà. Et donc moi j'ai passé un très bon moment. Et donc merci Eva. Merci pour tout. Voilà. Donc,
c'est une histoire vraie, j'ai pas bien compris.
Oui, c'est une histoire vraie.
Oui, c'est une histoire vraie.
D'ailleurs,
ouais.
Au générique de fin, comme un peu sur tous les biopics, on voit le vrai Richard Montagnès avec sa femme et ses enfants. Et vraiment, Oui.
Non, je disais, ce chips-là, chez nous, il est pas fort connu, mais aux États-Unis, c'est un.
Ah oui.
C'est des chips que les Américains adorent, quoi.
Et oui, il est arrivé, un Mexicain n'aurait jamais dû accéder comme ça à la place qu'il a eue. Voilà, il était maintenant haut placé dans le. Et le film nous montre très bien tous les personnes haut gradées, on va dire, les responsables et tout, c'est que des blancs. Il n'y a jamais un Mexicain. Et il y a des petits le racisme du quotidien. Par exemple, lui, pendant il a travaillé 10 ans là-bas, jamais il y a les noms floqués sur leur habit de travail, et jamais personne n'a été foutu de lui mettre la tilde du N pour Montagnès. Donc il avait écrit Montagnès. C'est des petits trucs comme ça, mais voilà. Je le conseille vraiment, c'est un chouette film. On passe un moment, et en plus pour la petite histoire, pour l'émission, justement, j'ai cherché un film, je voulais parler d'un film, je savais pas trop quoi parler, j'avais pas envie de revenir sur des vieux films que j'avais vus, je sais pas, ceux de Wes Anderson ou quoi, que j'aime bien. Je me suis dit, je vais regarder un film un peu original. Et alors, j'ai un petit peu cherché. Alors, au début, je suis tombé sur un, j'ai arrêté à la moitié. L'appel de la forêt, je sais pas si tu l'as vu. Parce qu'il y avait Harrison Ford, hein, mais attention. Hein. Bon, j'ai arrêté à la moitié, je dis,
ah,
je vais
oui,
pas parler de ça.
Ah oui, avec le chien, là.
Ouais, ouais, c'est voilà. Ça, c'est tiré d'un livre.
Ouais. Bon, je sais pas le livre, mais le film. Et donc, alors, en cherchant, par contre, il y a pas mal de, sur les films, quand j'ai cherché, on m'a proposé pas mal de films d'horreur. Alors, Disney propose des films originaux, enfin, il y a pas mal de films d'horreur. J'étais étonné. Et il y avait que celui-là. Et bon, alors, je l'ai regardé, ça m'a intrigué, et je regrette pas. Voilà. J'hésiterai entre le, si je devais mettre une note entre 3+ et 4+, parce que c'est pas non plus 4+, c'est un peu entre les deux, voilà. 3+, je trouve que c'est un petit peu bas, et 4, parce que mettre 5, j'ai du mal à mettre 5 sur un film, il faudrait vraiment que... Bon, ça arrive, mais voilà, entre 3,5, je mettrais. Petit 3,5, plus. Voilà. Donc...
Bah, je te demandais si c'était une histoire vraie parce que même si tu dis que ça n'a rien à voir avec Chip and Dale, ça me fait quand même penser dans le pitch à Welcome to Chip and Dale parce que c'est aussi l'histoire vraie du coup d'un mec. Alors non, Welcome to Chip and Dale, c'est un Indien, mais qui se bat pour réussir dans une Amérique qui lui laisse pas toutes ses chances, qui a un certain complexe d'infériorité aussi dans son cas et qui montre un peu ben voilà un mec qui était pas destiné à réussir dans ce monde-là et qui crée une industrie. À millions, quoi. Bon, je vais pas refaire la série parce qu'on en a déjà parlé dans un autre zapping, mais il y a quand même pas mal de similitudes.
Oui, donc, non, mais quand j'ai dit rien à voir, quand j'ai dit rien à voir, c'était surtout pour jouer sur le mot du hot, parce qu'on avait le Chip and Dale. Et les.
Ouais, mais finalement, regardez Welcome to Chip and Dale, c'est vraiment bien.
Voilà.
Regardez-le.
Donc, voilà. Faut pas, quand on voit Flaming Hot, faut pas s'exciter. Là, par contre, on est sur le contenu, je pense que c'est tout public. Enfin, je n'imagine pas, peut-être, dès qu'on s'est au moins 10 ans. Tu vois, ils mettent un âge, histoire de mettre un âge, mais enfin, il n'y a rien de... Tout le monde peut le regarder.
Je crois que c'est une très bonne transition vers la série de Charline qui m'a l'air d'être un contenu très tout public.
Complètement.
T'as vu la belle transition ?
Ouhou !
Oh, je suis fière de moi.
Pop, 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 pop.
Complètement. Et c'est une série que moi, je regarde avec Thibaut. Et c'est vrai qu'on regarde assez peu de séries ensemble parce que lui, il n'aime pas trop les séries. Mais c'est vrai
Te remballe pas pour jouer aux jeux vidéo.
Ouais.
Avec Edwige.
C'est
Edwige.
Ça. Quand il n'est pas en train de jouer aux jeux vidéo avec Edwige, voilà. Il se regarde quelques séries avec moi. Et donc, voilà, quand on mange le soir, des fois on aime bien regarder un petit truc fun, rigolo. On s'est refait par exemple tous les Kaamelott. Là, on est en train de se faire Full Metal Alchemist. Enfin, voilà, on aime bien regarder des épisodes assez courts. Et on a démarré Weekend Family, qui est une série française qui est diffusée depuis 2022, donc sur Disney+. Et on l'a regardée parce que en casting, il y a une tête connue qui est Eric Judor, qui incarne le papa, Fred. Et on aime tous les deux bien Eric Judor, donc on s'est dit, bah allez, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Les épisodes sont courts, il y a que 2 saisons de 8 épisodes chacune, donc c'est assez vite regardé. Et en fait, on a vraiment beaucoup aimé, je dirais, je mettrais un 3,5 aussi. Sans être transcendant non plus, c'est très drôle. Les épisodes passent vraiment bien, les personnages sont attachants. Ça peut faire penser un peu à la série Fais pas ci, fais pas ça aussi, où en fait où on suit une famille quoi. Mais c'est très très good vibes, c'est destination grand public. Et pour la petite histoire, en fait, c'est chaque épisode se passe un week-end du coup. Et en gros, dans la famille, on a Fred qui est un ostéopathe parisien qui chaque week-end récupère ses 3 filles, Clara, Victoire et Romy, qu'il a eues avec 3 femmes différentes. Et donc on suit un peu voilà leur vie, on voit leur maman à chacune, on voit la nouvelle compagne de Fred, Emmanuelle, qui est une étudiante en psychologie qui vient du Québec, donc a un accent tout mignon, tout chou. Et voilà, on voit un petit peu la difficulté de se faire accepter en tant que belle-mère, les week-ends à composer avec un peu les passions de chacun, leurs petites histoires à droite à gauche, la gamine Romy, elle est très, un peu tête à claque des fois, mais hyper attachante, très mignonne, puis tu vois que c'est pas forcément facile pour elle non plus. Mais ça reste très, quand je dis très good vibe, c'est que je ne pense pas qu'une famille comme ça, avec trois belles-mères différentes, se passe aussi bien. Là, tout se passe vraiment très bien. Ils en jouent vraiment, je pense à une scène très comique où ils sont en train d'essayer d'organiser les vacances, mais où chacune veut amener sa fille, du coup, à tel moment, à tel endroit. Et donc après, il faut l'emmener à tel club et il faut que, et qu'ils essayent de faire le planning groupé de la famille, mais c'est à mourir de rire. Donc voilà, c'est vraiment sympathique, je le conseille si vous cherchez un truc léger. Je trouve que pour une série française, ça marche bien.
Ça m'étonne quand tu dis qu'il n'y a que 2 saisons de 8 épisodes, parce que j'ai l'impression que c'est... Allez, c'est le genre de série où ils vont te faire plein de petits épisodes. Tu vois, comme sur TF1, il y avait les... Oh, j'ai oublié le nom maintenant, mais...
Oui, scène de ménage, des trucs comme ça. Ouais, ouais, non, là, c'est quand même plus long. Hein. Je crois que ça doit être 20-30 minutes un épisode. Et moi j'étais étonnée aussi, mais au final ça marche bien parce que tu vois ça tire pas non plus en longueur du coup. Tu vois, chaque week-end il se passe quelque chose d'un peu différent. Chaque épisode, il y a quelques intrigues qui se poursuivent, mais sinon chaque épisode est centré sur un week-end, donc sur un passage de vie. Mais du coup ça traîne pas en longueur. C'est pas des scènes qui se repassent puisque c'est assez court. Ils ont fait, il me semble, un téléfilm. Je l'ai pas regardé encore. Ils ont fait un téléfilm qui se passe à Noël. Mais je sais pas trop ce qu'il vaut. Mais voilà, je sais pas s'il va y avoir une saison 3, je pense que c'est possible si ça marche bien. Mais comme c'est tout nouveau là, je pense que ça va être annoncé encore.
Ok, bah du coup un format comme ça m'intéresse plus. Par contre, juste pour info, je viens de regarder sur le Disney Plus belge, pour l'instant on a que la saison 1.
Alors la saison 2 est sortie il y a vraiment très très peu de temps là, donc peut-être que...
Et on a le téléfilm.
Ça va arriver, alors. Ouais, je pense que ça va arriver.
Ok, eh ben je note.
Oui, c'est quand tu t'es mis à parler, ça me dit quelque chose. C'est dans la bande-annonce où on voit Eric Judor qui dit la famille contre-attaque. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Il dit ouais, la famille contre-attaque, parce que
peut-être.
Je sais pas.
Peut-être. J'ai pas vu la bande-annonce.
Ça m'a marqué parce que c'était un jeu de mots avec.
Avec Star Wars.
Avec Star Wars.
Peut-être. J'ai pas vu la bande-annonce. Ouais. Moi, je l'ai vu passer sur Disney+. Je me suis dit, une série avec Eric Judor, pourquoi pas, on va tenter. Et j'ai bien accroché, mais j'avais pas vu avant. Par contre, moi, c'est plein de good vibes, mais je crois que Clem, de ce dont elle va nous parler, c'est un peu plus dramatique.
Alors, oui et non. Enfin. Oui, parce que forcément le sujet est dramatique, mais ça va. La série ne tire pas dans le tire-larme. Donc je vais parler de la série Une lueur d'espoir, qui a été produite par ABC et National Geographic et créée par Joan Rutter et Tony Phelan, avec notamment Liv Schreiber, qui je trouvais très 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 touchant et convaincant dans le rôle de Otto Frank, Belle Paulet et Amira Kazar. Entre autres, hein. Il y a d'autres acteurs, mais voilà. Alors, c'est une mini-série de 8 épisodes qui raconte l'histoire remarquable de Mip Gies, donc qui est l'Amsterdamoise d'origine autrichienne qui a joué un rôle essentiel dans la dissimulation d'Otto Frank et de sa famille. Donc, Otto Frank, c'était le papa de Anne Frank, qui a écrit le journal d'Anne Frank, donc, de sa famille, de ses amis, pendant l'occupation nazie aux Pays-Bas, à Amsterdam. Alors, je ne vais pas faire plus de mystère, j'ai tout simplement adoré cette série. Franchement, les épisodes, ils sortaient 2 par 2, donc enfin, à chaque fois, c'était 2 épisodes par épisode, tous les samedis, et j'étais vraiment, mais avide de voir la suite. Bon, je connais plutôt bien l'histoire de Frank, parce que j'ai lu plusieurs fois le journal d'Anne Frank, c'était un de mes livres de chevet, je le lisais énormément quand j'étais adolescente. J'ai visité 2 fois la maison d'Anne Frank, la maison à Amsterdam, et j'ai vu et lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de reportages concernant l'histoire de cette famille, et donc j'ai trouvé que le parti pris de cette série de réaliser une version du point de vue de Mip Gies, et non pas du point de vue de Dan comme le livre, en fait, bah, c'était très intelligent et vraiment passionnant. Je trouve que l'actrice qui a été choisie pour interpréter Mip, elle a énormément de charisme et de caractère, et ça fait franchement de ça de la série une franche réussite. Franchement, elle porte toute la série. Le personnage de Yann, donc son mari, est excellent aussi, et l'histoire de leur couple derrière, parce que ce qui est bien, c'est qu'on a l'histoire des Francs forcément, et l'histoire de la déportation et de la Deuxième Guerre mondiale, etc., mais on a aussi l'histoire de la rencontre entre Mip Gies et son mari, comment est-ce qu'ils vont devenir des résistants.
des résistants, voilà, merci. Et comment ils vont devenir des résistants. Et donc, je trouve que c'est vraiment sympa de donner cette dimension supplémentaire au geste héroïque, qui était déjà héroïque de Mibgis. Et alors, en plus, il y a des magnifiques images d'Amsterdam qui sont très réalistes. Ma maman, donc, pour la petite anecdote, ma maman a épousé un Amstelodamois. Mon beau-père est hollandais. Et donc, on va très souvent à Amsterdam, forcément. Et ma maman adore Amsterdam. Et donc, j'ai conseillé à ma maman de regarder la série aussi pour voir toutes les images du vieil Amsterdam, de l'Amsterdam des années 40. Voilà. Et donc, c'est très réaliste, très joli. Les costumes sont impeccables. Le casting, il est soigné jusque dans le choix d'Anne Frank, qui vraiment, elle dégage tout ce que doit dégager Anne Frank, et c'est tout à fait, pour moi, la Anne Frank que j'ai l'impression de lire quand je lis son journal, donc, et qui a fait le succès de son journal. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment une réussite. Ça tombe jamais dans le pathos ou dans le larmoyant, mais ça s'est quand même joué sur les émotions, sur le suspense, sur voilà, parce que c'est quand même quelque chose qui est connu. On sait que les Francs ont été finalement déportés, que la cache a été découverte, et que malheureusement, ben, presque toute la famille Franck est décédée, à part Otto Franck, qui est revenu des camps et qui a découvert le journal de sa fille, que Mibgis avait gardé précieusement pour le jour où Anne reviendrait. Et donc, bah, tout le monde connaît cette histoire. C'est une histoire qui est mondialement connue. Et le fait de le faire de cette façon, de parler de Mip, de tout le combat de Mip, de tout ce qu'elle a fait pour réussir à sauver les Francs aussi longtemps qu'elle le pouvait, c'est vraiment passionnant, c'est beau, c'est bien fait, franchement, c'est pas du tout triste. Évidemment, le sujet est triste parce qu'on sait comment ça finit, mais c'est pas, voilà, ça joue pas sur ce côté-là, larmoyant, c'est pas la liste de Schindler, quoi. Voilà. Donc je le conseille vraiment, et ça permet de découvrir encore mieux Mibgis, et voilà, je donnerais 5 plus parce que j'ai adoré, et tous les gens à qui je l'ai conseillé l'ont adoré aussi. J'ai une de mes amies, je lui en ai parlé, elle me dit, oh, mais je l'ai déjà regardé, je suis totalement fan, c'était vraiment trop bien. Donc vraiment, je vous la conseille, même si vous n'aimez pas les trucs historiques, même si vous n'aimez pas les documentaires. C'est vraiment pas documentaire, c'est vraiment une vraie série, et c'est, bon, vous allez être emporté, sûr. Et en plus, il y a une histoire d'amour, Charline.
Ah non, mais moi, moi c'est comme toi, hein. J'ai visité déjà plusieurs fois la maison d'Anne Frank, j'ai lu le livre, et elle était dans ma liste dès qu'elle est sortie. Moi, c'est juste les épisodes 2x2 où j'ai plus de mal, donc j'attendais que tout soit sorti pour me lancer. Mais maintenant que tout est sorti et que je suis bientôt en vacances, je vais foncer la voir, bien sûr.
Et moi, ça me rassure ce que tu dis, ça me rassure parce que j'avais peur de la regarder en me disant ça va être triste, je vais pleurer pendant tout le truc, et j'avais pas le...
Non.
J'ai pas le courage, mais en fait, du coup, ça me rassure, ce que tu dis. Donc,
C'est plus prenant. Il y a beaucoup de tension, parce que forcément, bah voilà, c'est un peu romancé, hein. Donc, il joue sur les tensions. On va voir, parce que le mari de Mibgis, il était aussi résistant, donc il a aussi aidé dans la résistance à Amsterdam, etc. Donc on va voir le parallèle, en fait on va voir Mibgis, mais on va aussi voir Yann, et on va voir ce qu'il va faire, etc. Donc c'est bien, ça donne un nouvel éclairage, et donc c'est très prenant, franchement. Moi je me rongeais les ongles, je me disais, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus il y a des flashbacks, elle parle allemand, parce que je savais pas, mais en fait comme elle est autrichienne, elle parle allemand, et on comprend que ça va l'aider aussi quand la famille Frank va être malheureusement déportée. On comprend que ça va l'aider dans... elle à se sauver et à continuer à garder les affaires des Francs, et donc c'est vraiment bien, franchement je la conseille à 1000%. Et vous allez pas pleurer, c'est pas comme la liste de Schindler ou le pianiste ou le petit garçon au pyjama rayé, voilà, c'est pas du tout dans cet esprit là même si évidemment on sait que le sujet n'est pas le sujet le plus gai, mais ils ont réussi vraiment à rendre hommage à Mibgis, et ça je trouve que c'est vraiment bien.
Ok, cool.
Je vais le mettre aussi dans ma liste, parce que vraiment, tu en avais déjà parlé une fois sur le Discord ou quoi. Donc, et comme Céline, au début, tu nous rassures, j'avais peur. Le livre d'Anne Frank, je l'ai depuis des années et des années. Moi, j'étais jeune, j'ai jamais osé, à chaque fois, je sentais jamais de le lire.
Mais franchement, je le conseille, le livre d'Anne Frank. Moi, je trouve que c'est un livre magnifique.
Et à chaque fois, j'avais peur que ça me tue le moral, en fait. Parce que déjà, j'avais vu le téléfilm à l'époque, il y a un moment. Je l'avais aimé, mais voilà, c'est
la fin évidemment est triste,
et forcément ça m'avait marqué. Je me rappelle que pendant des jours et des jours, je sais que d'y penser, et j'ai jamais osé lire le livre. Mais du coup là, il faut que je lise le livre du coup, Et il faut que je regarde cette série.
Ah oui, vraiment, lis-le. Et moi, en tant qu'adolescente, ça m'avait vraiment énormément marqué. Ce que j'ai dû lire, je devais avoir 12 ans. Et ça m'a vraiment profondément marqué, mais ça m'a vraiment... je trouve que une jeune fille, une adolescente qui lit Anne Frank, par exemple ta fille qui pourrait le lire, mais ça lui permet de se dire, mais moi aussi je peux, moi aussi si j'ai envie d'écrire, je peux écrire, moi aussi je peux devenir qui je veux. Et pourtant, voilà, Anne Frank, elle est morte, et son contenu, c'est devenu universel. Ses écrits sont devenus universels, connus par le monde entier. Et c'est vraiment un message d'espoir, et c'est le cri du cœur d'une jeune fille de 13, 14 ans, voilà, qui écrit tout ce qu'elle pense dans un journal, et c'est rempli d'espoir, je trouve. C'est pas du tout déprimant. Donc je le conseille, en plus de la série, je conseille de lire le livre d'Anne Frank, pour le journal d'Anne Frank, pour ceux qui ne l'auraient jamais lu.
En plus, il n'est pas bien long, en fait.
Non, il n'est pas long. Ouais. Non, et c'est super bien écrit, c'est facile à lire, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que... Et quand on veut commencer à lire beaucoup, je trouve que c'est une belle entrée en matière, le journal d'Anne Frank.
Combien t'as dit qu'il y avait d'épisodes à cette série-là?
8.
8?
Ouais, ça va vite.
Ouais, ça va.
50 minutes, je pense, de max un épisode. Il y en a qui sont un peu plus courts, mais voilà.
C'est standard, enfin, c'est à peu près
un
épisode.
Et franchement, c'est une très belle qualité, très belles images, franchement, un très beau travail dessus.
Bon, alors, il n'y a que 8 épisodes, mais pour notre dernier contenu, il y en a un petit peu plus que ça, puisqu'on en est déjà à la saison 5. Donc, si vous allez vouloir rattraper cette série-là, il va falloir du courage. Céline, à toi.
Oui, alors, je voulais vous parler de la série qui s'appelle Grown-ish, qui est en fait un spin-off de la série Black-ish, qui était sortie il y a déjà un moment, hein, me demandez pas les dates pour Black-ish, mais Grown-ish est sortie en janvier 2018 aux US, donc moi je l'ai connue avec Disney+, en fait. Je crois qu'elle est sortie de toute façon ici avec, enfin, je dis ici en Europe, hein, en général, avec Disney+, il me semble, donc, pas avant 2020. Je vais pas expliquer Black-ish, mais bon, peut-être un petit vite fait, quoi, mais, c'est centré sur, une famille, à Los Angeles, donc une famille, black, en fait, hein, qui s'appelle la famille Johnson. Donc, c'est juste pour ça que je vous fais un petit résumé de Black-ish juste comme ça, évidemment. Et en fait, dans la famille Johnson, il y a la fille aînée qui s'appelle Zoé. Et en fait, Grown-ish, c'est basé essentiellement sur Zoé. Donc la série, comme Black-ish, elle a été réalisée, enfin écrite et réalisée par Kenya Barris et Larry Wilmore. Voilà, donc c'est eux qui ont fait les deux séries. Zoé est jouée par Yara Shahidi, justement, on en parlait tout à l'heure, et donc Hailey Bailey est aussi dans le cast, mais elle part pendant la saison 3. On sait pas pourquoi, elle est partie filmer quelque chose d'autre, apparemment. À ce moment-là. Et elle n'est jamais revenue. Oh, elle n'est jamais revenue. Pour la petite histoire.
Il y a Anguille Souroche. Oh,
très beau jeu de mots, Clem.
Merci. Merci. Voilà.
bref, donc évidemment pour la petite histoire, dans l'histoire, elle devient olympienne en fait parce que c'est quelqu'un qui fait de la course et elle part aux Jeux Olympiques. Elle devient athlète professionnelle. Voilà. Nous, on sait que c'est pas ça, mais voilà, dans la série, c'est ça. Bref, Grown-ish, ça parle de quoi? Donc, Zoé Johnson, donc l'aînée de la famille de la série Black-ish, comme je vous disais. Donc, elle quitte la série Black-ish à un moment donné. Je me souviens plus des saisons. Il y a beaucoup de saisons, hein, Black-ish, donc je ne sais plus. J'ai envie de dire l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière saison. Bref. Pour aller à l'université, parce que elle avait l'âge de partir à l'université, donc voilà, il fallait qu'elle parte à l'université. Donc l'université, c'est l'université de Californie, hein, Cal U. Et donc, en fait, chaque saison, évidemment, c'est une année. Hein. Alors vous allez dire 5 ans, bah oui, ah, je vais y venir. Il n'y a pas 5 ans d'université, bah non, évidemment. Mais bon, bref. Donc au début, en fait, c'est vraiment voilà, c'est l'université. Les succès, les échecs, hein, j'ai envie de dire, que ça soit au niveau scolaire ou au niveau relationnel, hein, que ce soit les amis ou évidemment il y a pas mal d'histoires amoureuses, il y a des love triangles, voilà, ça, donc, moi j'aime bien, je suis un petit peu, je suis pas autant que Charline, mais un petit peu des fois. Voilà, moi ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette série, c'est que en fait ça m'a ouvert, je pourrais dire ça m'a ouvert l'esprit, ouvert les yeux, c'est un petit peu gros, hein, mais ça m'a fait connaître un petit peu la génération, la Gen Z, en fait. Parce que je ne suis pas Gen Z, évidemment, je suis une pure milléniale, une vieille milléniale, c'est comme ça qu'on nous appelle.
T'inquiète, hein, Charline, grave aussi, hein, on est des milléniales.
Voilà, hein. Donc, Émilie, je commence à comprendre ta génération. Non, mais voilà. C'était intéressant parce que c'est assez différent et justement, c'est une génération qui est beaucoup plus inclusive que la génération milléniale ou celle d'avant. Voilà. Mais sur beaucoup de choses, ils sont beaucoup plus. J'ai pas envie de dire, il n'y a pas de tabou parce que c'est une série aussi, hein, donc évidemment, tout est embelli. Hein, il n'y a pas de tabou entre eux. Tu peux être de n'importe quelle couleur sur le drapeau LGBT, si je peux dire, ou de n'importe quelle religion ou quoi que ce soit, c'est abordé d'une façon assez légère, sans être non plus, on n'en parle pas. Enfin, voilà, mais c'est genre bah ouais, c'est normal quoi. Et j'ai, enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette façon d'en parler. Si j'espère que ça a du sens ce que je dis. Voilà. Donc les quatre premières saisons sont vraiment là-dessus, donc les quatre années universitaires, parce que c'est 4 ans hein, pour un bachelor, dit oui, qui est l'équivalent de la licence, mais pour eux c'est sur 4 ans. La saison 5, donc parce que c'est la dernière saison qui est sortie cette année, se concentre sur en fait Zoé qui a un travail. Voilà, je vais pas tout vous dire, hein, mais voilà, elle a un travail. En fait, c'est elle voyage énormément pour son travail. Et son mec, c'est pareil. Voilà, et donc, en fait, c'est aussi le fait qu'ils arrivent pas à se voir parce qu'ils sont toujours à droite, à gauche, dans un avion ou quoi que ce soit, etc. Bon, ils arrivent à se retrouver. Quand ils se retrouvent, ils s'engueulent. Enfin, bon, voilà, ça, c'est le côté un petit peu comme ça. Mais aussi, cette saison, donc cette dernière saison, il y a le petit frère de Zoé qui s'appelle Junior, donc qui est le... Je sais pas comment on appelle celui qui est en dessous de l'aîné, mais qui n'est pas le dernier, parce qu'il y en a 3 en dessous, donc...
Le puiné, ça se dit, je pense.
Ah ouais, je connaissais, je sais pas.
Puiné.
Puiné.
Ouais. Ouais. Ouais, t'as l'aîné et t'as le puiné, ouais.
Ah oui.
Et pour d'accord. Une fois que c'est moi qui ai des expressions de vieux.
Grave. Bah, pour moi, j'avais l'aîné, le Benjamin et le... Enfin non, il y a l'aîné, celui du milieu c'est le...
Pas le cadet. Il y a pas le cadet.
Le cadet, ouais, je crois qu'il y a le cadet dans le...
Le cadet, le Benjamin.
Le Benjamin, c'est le dernier, je pense.
Le Benjamin, c'est le dernier, non? Ouais.
Ouais, ouais.
Enfin bref, voilà, son petit frère, mais voilà. qui lui, donc, est arrivé à l'université... où sa sœur était avant. Tintintin. En fait, voilà. Donc maintenant, c'est un nouveau groupe en fait. Mais on a encore des chassés croisés, si je peux dire, entre les différentes histoires. Donc voilà. Donc en fait, ils ont créé un nouveau groupe. Donc je suppose qu'il y aura d'autres saisons qui vont sortir, mais du coup, axées sur Junior et non plus sur Zoé. Donc je pense que ça. Alors je sais pas si un jour ils vont finir parce que s'ils font passer les 5 enfants, on va peut-être se lasser
ouais,
au bout de. Voilà, on va peut-être se lasser un petit peu quoi. Donc justement, j'ai trouvé que justement cette saison était plus faible que les autres par rapport. Pas forcément parce que c'est Junior, j'en sais rien, ou peut-être parce que ça s'essouffle en fait tout simplement. Je pense que 5 saisons pour une série, c'est beaucoup. Perso je trouve surtout quand c'est beaucoup d'épisodes parce qu'encore c'est pareil, c'est encore un format sitcom, donc un format d'une vingtaine d'épisodes de 20 minutes, donc 5 saisons ça commence à faire beaucoup. Donc je ne vous dis pas ça en disant ne regardez pas parce que moi j'aime beaucoup Garnish, mais j'ai envie de vous dire les 3 premières saisons sont essentielles, si je peux dire. Saison 4 et saison 5 ça s'essouffle un petit peu. Donc moi évidemment j'ai continué parce que bon bah j'aime bien, puis j'aime beaucoup Yara Shahidi, je l'ai déjà dit plusieurs fois avant, j'aime beaucoup cette fille, je trouve qu'elle est magnifique, elle a de la classe et voilà, j'aime bien la regarder en fait, c'est con mais voilà c'est comme ça, elle me met de bonne humeur en fait. Et puis bon, comme je vous dis, j'aime bien que le cast soit, que tout le cast soit super diversifié dans tous les sens et que c'est amené de façon naturelle, c'est pas forcé, c'est pas regardé, on a fait ça pour ça. Que j'aime beaucoup. Je pense que ça joue que évidemment les writers en fait de la série sont les writers de Blackish, et Blackish était un petit peu l'intérêt de la série aussi, c'était d'expliquer les différences, etc. Donc je pense qu'ils ont continué là-dessus, mais en plus sur la Gen Z que j'ai trouvé donc très intéressante.
Moi, c'est vraiment par manque de temps que je regarde pas Grownish, parce que ça a l'air super chouette, et comme tu dis, j'adore l'actrice. Mais c'est vrai qu'avec ce que tu racontes, effectivement, j'ai peur que ça s'essouffle, parce que déjà, après, c'est, bon, c'est une question de ce qu'on aime regarder ou pas aussi, déjà Blackish, j'adore, mais j'ai pas encore terminé, quoi, parce que je me fais 5-6 épisodes, et puis à un moment, tu fais un peu une overdose et t'as envie de regarder autre chose. Et là, si on commence à partir sur la vie du deuxième et puis de reprendre les enfants d'après, ils ont fait un troisième spin-off aussi qui a pas bien marché sur l'enfance de la mère, qui partait d'une bonne intention aussi, parce que l'idée c'est mixed-ish, et en fait l'idée de base c'est que la mère elle a un parent blanc et un parent noir, et c'est explorer cette thématique là. Mais si on commence à tout faire dans des séries spin-off, j'ai peur que ça fasse trop, quoi.
Tout à fait. Et j'avais bien aimé Mixtish d'ailleurs, parce que bon, en fait, je pense que parce que j'aimais bien, parce que c'était les années 80. Ça se passe dans les années 80. Mmh. Et j'adore, en fait, c'est une. Oui, j'étais petite hein, dans les années 80, donc je connais plus ces années 80 par rapport à la pop culture, pas forcément à ce que j'ai vécu. Mais j'aime beaucoup. Et puis, c'était le retour de Mark Paul Gosselaar, qui, pour moi, dans ma jeunesse, c'était Zach dans Saved by the Bell. Sauvé par le Gong, qui était ma série préférée quand j'étais toute petite. Oui, je sais, je suis vieille, mais je suis sûre qu'on a des auditeurs qui ont mon âge et qui vont.
Non, moi je connais Sauvé par le Gong. Hein.
Moi, je connais de nom, mais j'ai jamais vu.
Je regardais avec mon frère. Mon frère a 40 ans, donc je regardais avec mon frère.
Voilà. Bah, et en tout cas, Charline, si tu n'as jamais vu, ne regarde pas, parce que si tu n'as pas grandi avec, tu vas trouver que c'est ringard. Parce que ça a très 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 mal vieilli, Sauvé par le Gong. J'ai regardé, ils sont sur Prime, en tout cas au Royaume-Uni, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai fait oula, ok.
Zach, c'est lequel encore? C'est le blond ou c'est l'autre?
C'est le blond.
Le blond, bah oui,
c'est
bien.
C'était mon crush quand j'avais genre 7 ans, quoi. Je le kiffais, quoi. C'était
le crush de tout le monde. Ah, hein. Ouais, avec son sourire Colgate.
Ah ouais, je l'adorais, quoi. Et donc, il joue le père de. J'ai oublié son nom. Rainbow, elle s'appelle. Rainbow. Il joue le père, donc ouais, je trouvais que c'était sympa. Mais en effet, je comprends pourquoi ça n'a pas forcément marché. Mais voilà, donc Brownish, voilà, je voulais vous parler. Au début, j'avais dit de parler que de la saison 5, mais en fait, autant parler de tout, parce que surtout qu'en fait, les meilleures saisons, en fait, c'est de 1 à 3. Et il y a Elle et Berry de la saison d'1 à 3. Mais c'est surtout que c'est les 3 années vraiment centrées sur. Ouais, les difficultés et aussi, comme je dis, les succès à la vie universitaire, te trouver en tant que jeune adulte quand t'arrives là-dedans, et voilà, et savoir marier, faire la fête, tout en même temps étudier. Et on sait très bien que des fois ça marche pas, et t'as toutes ces histoires et les parents qui sont encore un petit peu collants dans un sens, parce que ben tu viens de quitter le nid, quoi. Bref, je trouve ça intéressant. Ça m'a rappelé un petit peu de souvenirs aussi universitaires, même si différentes expériences, parce que d'abord je suis pas américaine. Et je suis pas Gen Z, donc c'était pas la même chose, mais quand même la vie ensemble, etc., que tu as à l'université, qui est quand même très sympa. J'ai bien aimé. Bah, bref, donc je vous le recommande.
Gen Z, c'est un état d'esprit, d'accord. Ce n'est pas un âge.
Oui, mais quand même,
c'est un mindset.
Ouais, mais je crois que je suis quand même très millénial, malheureusement. Je pense que.
Oui, non, mais moi aussi, je suis fière d'être millénial. Même si la Gen Z adore se moquer de nous, c'est pas grave.
Non, mais donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympa, Grownish. Pareil, hein, faut pas se pousser, c'est pas fait pour se prendre la tête non plus. Ça se regarde, comme Charline, elle aime bien regarder des séries un peu courtes comme ça en mangeant, pourquoi pas.
En faisant son repassage. Voilà.
Ouais, non, mais moi,
ça,
mais
c'est
vrai. Non, mais moi, c'est vrai que pendant que je mangeais, enfin, tu vois, pendant le Covid, j'étais à la maison, travaillais de la maison, je me faisais un épisode au moment du déjeuner, quoi. Donc c'est sympa, c'est ce genre de choses. Sur la série totale, je lui donnerais un 3+.
Encore.
Sur la saison 5, un 2. Mais sur la saison 5, un 2. Mais sur la saison en entier, un 3+.
On va l'appeler le zapping du 3+.
Alors, 3,5 pour les 3 premières. Et 4 et 5 entre 2 et 3. Donc 2,5 sur les 4 et 5. Voilà.
C'est une belle conclusion et ça présage un épisode compliqué pour le mois prochain, puisque on va se poser la même question. Est-ce que le 1, 2, 3 était mieux que le 4 et 5? Mais je vous explique ça après le jingle. Merci à tous d'avoir écouté ce zapping. Donc, comme d'habitude, on se dit qu'il sera pas très long parce que c'est un zapping et finalement, on est presque à 2 heures d'enregistrement. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux, à nous dire si vous avez déjà vu les contenus dont on a parlé, si vous voulez nous donner votre avis ou si vous les avez regardés suite à notre épisode. On est toujours content d'avoir vos avis sur Instagram ou autre. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode, mais en gros, il était un plus. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain donc pour la fameuse question est-ce que le 1, 2, 3 sont mieux que les 4 et 5? Mais on va se poser cette question donc sur la saga Pirates des Caraïbes. Donc la question étant, Pirates des Caraïbes, fallait-il s'arrêter à la première trilogie? À vos claviers. Et c'est le moment de vous dire d'ici là, à plus sur Disney+.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao.
I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mountain.